Petite légendaire sur Radio Grand Ciel. Bonjour à tous, au micro Elisabeth Cougé. Cette émission que je vous propose avec la collaboration de Christine Lafautard vous fera certainement rêver. À 20 ans, je suis allée en Inde, toute jeune mariée. Ce pays, mais je devrais dire continent, m'a d'emblée éblouie. Et depuis lors, ce sentiment d'émerveillement n'a jamais diminué. Et toi, Christine, qu'en penses-tu de l'Inde? Tu le connais, me semble-t-il?
Ah oui, bien sûr, je connais l'Inde. J'y ai vécu toute petite. D'ailleurs, mes premiers souvenirs me viennent de l'Inde. Et je me souviens des éléphants qui passaient devant la maison, tu vois. C'est plutôt un souvenir indien, ça.
J'imagine qu'à 2 ans, ça t'a marqué. Trois ans, oui. Alors, bien sûr, l'Inde est non seulement magique, comme vous imaginez immédiatement, mais avant toute chose, gigantesque. Et de toute manière, le but de notre émission n'est pas la découverte d'un pays, mais celle d'un site et légendaire. Donc, direction est le site en Inde qui fait rêver tous les romantiques du monde.
Le Taj Mahal, bien sûr.
Et oui, bien sûr, dont la magnificence n'est pas à démontrer. Par contre, j'aurais certainement mal à décrire le sentiment d'émerveillement qui m'a saisi en le découvrant. Je suis restée figée, tétanisée devant la vue époustouflante, comme probablement tous ceux qui ont eu de la chance de se retrouver face à cette merveille, dans ce pays vraiment étonnant.
Oui, l'Inde, c'est un pays démesuré, immense, et il est constitué de nombreux États formant l'Union indienne.
Voilà, ces États d'ailleurs sont différents, tous très différents, riches de monuments magnifiques, avec des populations variées, parlant des langues et utilisant des alphabets qui ne se ressemblent pas.
Alors, le Taj Mahal se trouve dans quelle partie de l'Inde, dans quel état?
Eh bien, le Taj Mahal, on pourrait dire le joyau de l'état d'Uttar Pradesh, dans le nord de l'Inde, qui s'étend au pied des contreforts de l'Himalaya. Cet état, de nos jours, est l'un des plus peuplés du pays. Par excellence, c'est la région de la vraie civilisation hindoue, ou l'hindouisme, à partir de la fin du premier millénaire, qui s'était étalé avant Jésus-Christ, bien sûr. Mais c'est aussi le berceau du bouddhisme qu'il faut dater à 2000 ans après l'arrivée de l'hindouisme.
Donc, voilà, il faut retenir que le bouddhisme est issu de l'hindouisme.
Exactement. Il y avait une autre religion encore, le jaïnisme, développé environ à la même époque, qui s'est bien moins répandu que le bouddhisme, et qu'aujourd'hui encore, il y a encore cette philosophie, il y en a beaucoup qui le suivent, et compte environ 5 millions d'adeptes. Alors, c'est vrai qu'en Inde, dans ce pays...
Ça paraît beaucoup, mais en fait, voilà, pas tellement par rapport au nombre d'Indiens, oui.
Exactement. Alors, c'est un pays donc très religieux et beaucoup de pensées se côtoient avec plus ou moins de bonheur et dans le calme. Mais face aux musulmans, les problèmes se posent chez eux depuis toujours. Mais revenons peut-être à notre sujet et donc à notre site légendaire, le Taj Mahal.
Qui est un somptueux mausolée dédié à une épouse bien aimée. Voilà pourquoi les amoureux du monde entier le considèrent comme le symbole du plus beau sentiment humain, l'amour.
Et oui, et ce monument, qui est vraiment extraordinaire, se trouve dans la ville d'Agra, au bord de la Yamuna, un des fleuves sacrés de l'Inde. Cette ville, jusqu'à 1500 avant notre Inde, n'était qu'un lieu de second rang dans l'état d'Uttar Pradesh. C'est seulement après qu'Agra est devenue la capitale de l'empire des Moghols.
Donc, bien sûr, les Moghols, M-O-G-H-O-L, rien à voir avec les Mongols.
Non, non.
Donc, les Moghols, disais-tu, mais d'où venaient-ils?
Et encore, je ne serais pas si catégorique que ça, parce que donc, c'était des envahisseurs. Mais ils étaient d'origine turco-mongole.
Ah, un petit rapport quand même.
Et quand même, bien sûr. Et de parmi leurs ancêtres, on peut remonter jusqu'à Timur d'une part et à Genghis Khan d'autre part, qui sont descendus des montagnes afghanes Et voilà. Et ensuite, ils sont installés vraiment avec plaisir en Inde. Le premier empereur s'appelait Babur le Conquérant, victorieux, qui, après avoir défait les sultans de Delhi, est allé à Agra. Il a compensé, voilà, il voulait absolument aider ses soldats, et il a créé, pour compenser leur nostalgie à ses soldats, il a créé des magnifiques jardins, et voilà, il devait contrecarrer la touffeur de cette plaine de Gange qu'il trouvait en Inde, contrairement à l'air frais qu'ils ont laissé dans les montagnes. Ces envahisseurs introduisirent l'islam en même temps qu'une culture étrangère, d'ailleurs très vite assimilée, et qui a donné une nouvelle identité propre à cet état d'Uttar Pradesh, tout comme à son architecture et à sa culture, célébrée dans la poésie ourdou, qui est la langue officielle de l'État.
L'empereur Babur, quel genre d'homme était-ce, à part, bien sûr, conquérant et victorieux?
Eh bien, l'un n'empêche pas l'autre. Il a laissé derrière lui l'image d'un homme, donc, victorieux et conquérant, mais cultivé, littéraire et en même temps très religieux. C'était un musulman sunnite, très très croyant, qui a copié le Coran intégralement, ce qui ne l'a pas empêché d'être un grand chef militaire quand même. Et qui, après avoir gagné une immense bataille à Panipat, a conquis l'Inde en 1526.
1526, il me semble que c'était une année faste pour les musulmans, car pour le célébrissime Soliman le Magnifique, c'était aussi l'année de la conquête de la Hongrie. Ou je me trompe, Elisabeth?
Hélas, non. Tu as raison, les Hongrois s'en souviennent encore. Il y a eu ensuite 150 ans d'occupation turque et une occupation désastreuse et dévastatrice. Bon, ce n'est pas vraiment notre sujet. Alors, retournez en Inde et surtout à Agra, à la cité des Moghols, où tous les monuments expriment à la fois le goût personnel des empereurs qui ont régné et aussi l'évolution de la tradition architecturale, dont le Taj Mahal illustre sans contestation possible la perfection, de l'harmonie, de l'esthétisme que l'ont encore dans leurs écrits et depuis 3 siècles et demi poètes et voyageurs. D'ailleurs, sa célèbre silhouette est devenue l'emblème incontestable du pays.
Tout à fait vrai. Et c'est ce site légendaire que nous continuerons à découvrir dans la suite de notre émission d'ici peu, après une première pause musicale.
Dans nos studios de Radio Grand Ciel pour aller visiter oralement, bien sûr, dans notre émission, le site légendaire en Inde, qui est donc le Taj Mahal. Dans ce pays de contraste, où le peuple, durant plus de 5000 ans, s'est forgé une culture raffinée, philosophique et morale. Ceci est le résultat d'une recherche esthétique et d'une constante réflexion intellectuelle qui a toujours fasciné les Occidentaux.
Après ces préambules, Elisabeth, si tu nous racontais l'histoire du Taj Mahal.
Alors, l'existence même du Taj Mahal vient d'un amour légendaire entre la reine Mumtaz Mahal, son nom veut dire la perle du palais.
Mumtaz, en arabe, ça veut dire magnifique.
Voilà, pour les Indiens, c'est la perle. Et l'empereur moghol Shahjahan, autrement dit le roi du monde, qui venait et qui vouait à son épouse une adoration sans borne. C'était Shahjahan qui a fait réaliser un trône extraordinaire, ce qui, durant 2 siècles, servait à tous les empereurs successivement. Ce trône est devenu le symbole de leur pouvoir. L'oiseau, représenté plusieurs fois en sculpture sur ce trône, était le paon, un symbole très important dans la religion indienne. D'ailleurs, on en trouve dans les beaux jardins, des paons un peu partout. Cet oiseau, avec sa queue aux plumes multicolores et ses cris d'amour étouffés, est l'animal qui représente l'amour, mais en même temps, la puissance aussi. Dans l'histoire, quand on parle de ce fameux trône, on l'appelle le trône du paon.
Et qu'avait-il de si extraordinaire, ce trône ?
Eh bien, dans le trésor de Shahjahan, il y avait d'énormes quantités de pierres précieuses et de l'or, bien entendu. Le trône a été réalisé en une décennie quand même, sans interruption. Et même durant la grande famine qui a sévi durant ces années. Ça me rappelle François Ier qui a fait construire Chambord.
Oui.
Même durant tous les problèmes, même quand il était prisonnier, la construction ne s'est pas arrêtée. Enfin, c'était un palais. Là, il s'agit juste d'un...
D'un trône.
D'un trône, ouais. Exactement. Donc, et voilà. Et le trône avait une forme étonnante, une forme d'un lit indien, posé sur des pieds d'or, magnifiquement ouvragé. La tête du lit faisait un retour comme une sorte d'immense capuche couverte de splendides pierres précieuses. Au-dessus du trône, 12 colonnes en porphyre soutenaient un baldequin. Ce trône a finalement été volé 2 siècles plus tard à New Delhi par les Perses et qui l'ont très certainement fait démonter. Et plus jamais, plus personne n'en a entendu parler.
Et je suppose que l'empereur Shahjahan, qui avait fait réaliser un trône de la sorte, a fait encore plus d'efforts pour la création du mausolée en la mémoire de son épouse, oui, tant adorée.
Exactement. Alors, je peux dire quelques mots de Mumtaz Mahal, donc, qui était la fille de Asaf Khan, pour qui ce mariage avec l'empereur des Moghols était plus qu'avantageux. Le mariage arrangé n'est pas forcément une réussite parfaite, mais dans ce cas-là, c'est devenu un mariage d'amour harmonieux, voué à la fidélité. Sachant cela, l'existence du Taj Mahal, ce noble et tragique chant d'amour à l'être disparu, est bien plus qu'un extraordinaire mausolée de marbre blanc. Pour l'empereur Shahjahan, il ne suffisait pas d'imaginer son épouse disparue au paradis, mais il lui fallait la voir dans sa blancheur immaculée, au milieu d'un riche jardin d'Allah, ce bâtiment se donne et se laisse admirer.
À quel âge est morte Mumtaz Mahal ?
Alors, autrement dit, la perle du palais a mis au monde 14 enfants. Elle est décédée lors de la naissance du dernier-né, alors qu'elle allait avoir 40 ans. Mumtaz Mahal n'a jamais eu de rôle politique. C'est sa beauté et l'attirance qu'elle exerçait sur tous les gens qui l'avaient approchée qui l'a rendue légendaire. Au moment de sa mort, Shahjahan était en campagne dans le sud de l'Inde, l'Inde qu'il voulait conquérir. Et il était en compagnie de son épouse qui avait l'habitude de l'accompagner au cours de ses campagnes. Mumtaz Mahal est morte au cours de ce voyage. Elle fut inhumée d'abord dans un tombeau provisoire Et l'empereur éprouvait une immense affliction et résolut d'élever le plus magnifique tombeau du monde pour immortaliser le souvenir de son amour pour elle. Et la construction du Taj Mahal a commencé très rapidement, la même année, face au palais du Grand Moghol au bord de la Yamuna à Agra.
Quel beau symbole. Et les monuments funéraires ont-ils une particularité dans ce pays?
Oui, le style funéraire moghol et musulman en Inde est unique et s'adresse aux âmes mortes et à la douleur du passé. À travers le pays, plusieurs douzaines de mausolées plus impressionnants les uns que les autres prouvent le respect qu'inspiraient les personnes inhumées ainsi. En visitant ces monuments, on revit aussi la période musulmane, dans l'histoire de l'Inde.
Et j'ai l'impression que celui qui n'y a pas passé quelques heures, et surtout lors des couchers de soleil ou au lever de la lune, n'a pas vraiment visité l'Inde. Et toi, Elisabeth, as-tu visité quelques mausolées à l'occasion de tes séjours en Inde ?
Oui, j'ai eu de la chance, mais jamais à la nuit couchée, sauf au Taj Mahal, parce que j'ai eu l'immense bonheur de l'avoir vu, vraiment le plus beau. C'est vrai qu'avoir visité le Taj Mahal et avoir passé toute une après-midi et une soirée au milieu de charmants Indiens sur les terrasses de ce monument exceptionnel, tout en admirant le jeu des couleurs que le soleil couchant peignait sur le Yamuna, m'a laissé un souvenir vraiment indélébile et un sentiment merveilleux et vraiment inoubliable.
C'est vrai que pour beaucoup de mausolées, on ne s'en souvient pas vraiment très bien, mais le Taj Mahal laisse indéfiniment un souvenir extraordinaire.
C'est vrai.
Et peut-être, Elisabeth, avant de pénétrer sur le site du Taj Mahal, tu pourrais nous décrire la ville d'Agra, juste
Alors,
à côté.
Alors, cette ville, dans cet immense pays, n'est pas si grande que ça, compte pour d'une importance moyenne, avec à peine 1,5 million d'habitants. C'est une ville industrielle qui, hélas, pollue, entre autres, le célèbre mausolée. Heureusement, la ville s'en est rendue compte, en est consciente, et depuis ces dernières années, de sérieux efforts ont été faits pour préserver la merveille que nous visiterons virtuellement, bien sûr, dans la dernière partie de notre émission. Mais avant, découvrons le Fort Rouge, car si le Taj Mahal est l'admirable témoignage de ce qu'était le raffinement au XVIIe siècle, à la cour des Grands Moghols, le Fort Rouge d'Agra et celui de New Delhi représentent la révélation de la puissance extraordinaire atteinte par cet empire et surtout portée à son apogée par Shah Jahan.
Et on les appelle Fort Rouge à cause de la couleur des murailles.
Mais oui, construite en grès rouge, la puissante enceinte d'une périmètre de 2 km 400 défendait la citadelle impériale grâce aux 21 mètres de hauteur de ses remparts crénelés, renforcés par des trous et des bastions.
L'empereur y vivait ?
Oui, en outre, c'est depuis le Fort Rouge d'Agra que l'empereur suivait religieusement la construction du plus beau mausolée du monde jamais égalé, assis sur une des terrasses, sur un magnifique trône en marbre blanc qui encore aujourd'hui se trouve là et garde l'empreinte du grand Shah Jahan. Dans cette dernière partie de notre émission, site légendaire sur Radio Grand Ciel, nous voici à la porte d'entrée d'un des plus célèbres entre eux, le Taj Mahal.
À quel moment a-t-il été construit?
Et le Mumtaz Mahal est morte en 1631. La construction du mausolée a commencé immédiatement après le décès de la reine. Et ensuite, il fallait 22 ans ou 20 000 ouvriers pour le terminer. Alors, nous ne connaissons pas le nom de l'architecte, mais nous savons quand même qu'un groupe de 37 personnes dirigeait la réalisation. Conçu comme un jardin funéraire dans la lignée des mausolées de tous les empereurs moghols, le Taj Mahal, autrement dit, la couronne du palais, les éclipse tous, et de loin. Ici, le mausolée se trouve tout au fond du jardin, rendant ainsi la symétrie encore plus parfaite dans l'ensemble.
Alors maintenant, guide-nous, Elisabeth, et raconte-nous ce que nous pourrions voir comme si nous y étions.
Alors, préparez-vous à marcher d'abord, parce que, ou au mieux, prenez un rickshaw, car le quartier du Taj Mahal est interdit à la circulation automobile, entre autres à cause de la pollution. Alors, si possible, allez-y tôt le matin, lorsque la brume monte depuis la Yamuna, c'est à ce moment-là que le Taj Mahal vous paraîtra le plus féerique.
Est-ce que le portail d'entrée est aussi en marbre blanc?
Non, il est en grès rouge, comme le fort. Il est incrusté d'arabesques et d'inscriptions coraniques en marbre blanc et donne accès au jardin qui entoure le célèbre mausolée. Le portail est surmonté de jolies coupoles en marbre blanc et là, arrêtez-vous. Une immense perle lumineuse posée au fond du jardin sur un immense socle de marbre vous attend. Selon moi, c'est la plus belle perspective que vous découvrirez à cet endroit-là. Et là, haut de 75 mètres, le Taj Mahal vous apparaîtrait comme un véritable joyau. Le jeu de la lumière sur le marbre en crée un monument de l'atmosphère changeante suivant les heures de la journée. Mais elle reste toujours envoûtante de blancheur et de sobriété. Alors à cette distance, il paraît diaphane, quelque peu irréel, mais en progressant à travers le jardin, il se relève dans toute son harmonie.
Alors après être resté silencieux devant cette beauté sans nom, on peut peut-être rentrer dans le jardin?
Eh oui, alors on peut avancer à travers le jardin, dans l'axe du mausolée, comme sur une voie triomphale, avec l'œil orienté vers le monument qui nous attire comme un aimant. Le jardin, en fait, représente le paradis d'Allah, dans lequel l'âme immaculée de l'épouse bien-aimée de Shahjahan occupe une véritable place centrale. Et nous voici au pied du mausolée, qui se dresse sur une terrasse haute de 7 mètres, revêtue de marbre blanc. Il y a quatre minarets tout autour, isolés du mausolée, dont la coupole centrale atteint les 26 mètres de hauteur et à 18 mètres de diamètre.
On a un accès libre à cette terrasse?
Oui, mais avec des chaussons de protection en papier que l'on reçoit en arrivant. Les quatre minarets sont plus petits que la coupole centrale. Ici, on n'a pas besoin de lancer sa prière vers le ciel. Une fois sur cette terrasse, nous y sommes déjà, pensent les musulmans.
Au ciel.
Qui viennent en pèlerinage.
Et comment est la décoration du monument?
Bien, en réalité, c'est assez sobre et bien sûr très élégant. On y lit des versets du Coran sur des bandeaux. Ailleurs, il y a des arabesques florales, des motifs géométriques exécutés en pierre semi-précieuse, turquoise, corail, malachite, lapis lazuli inséré dans le marbre blanc, ce qui orne le monument merveilleusement.
Les deux cénotaphes de Mumtaz Mahal et de Shahjahan se trouvent-ils ensemble et à quel endroit?
Oui, ils sont ensemble tous les deux, car Aurangzeb, qui était le fils de Shahjahan, oui, a placé le cénotaphe de son père à son décès près de celui de sa mère, Mumtaz Mahal. Les deux se trouve placé sous le dôme, dans la pièce centrale, dans une crypte souterraine située exactement en dessous. Les cénotaphes ont des incrustations et jusqu'à 48 minuscules morceaux de pierre semi-précieuses ont été si minutieusement enchâssés les uns dans les autres que tout raccord en paraît invisible. C'est absolument extraordinaire.
Mais pour quelle raison les deux cénotaphes se trouvent-ils dans le sous-sol du mausolée ?
Et car tout musulman doit reposer à même la terre. Une crypte au niveau du jardin abrite donc la dépouille du défunt comme s'il était au niveau de la terre. Il y a encore quelque chose d'assez étonnant à signaler à propos de l'édifice dont les lignes architecturales répondent à une géométrie stricte. Alors je vous rassure, tout de suite, je ne vais pas vous donner un cours de géométrie, mais sachez quand même que lorsque l'on fait face à l'édifice, celui-ci s'inscrit dans un triangle isocèle, donc deux côtés sur trois sont identiques, et cela a son importance car, selon les traditions antiques qui survécurent dans les cultures arabes et persanes, le triangle est associé à l'image du feu et les Moghols placèrent ainsi le cénotaphe de leur mort au centre d'un feu symbolique.
Ce qui n'est pas sans évoquer les bûchers funéraires des hindous.
Et non, et le rapprochement n'est tout qu'on ne fait pas si hasardeux lorsque l'on pense à l'intérêt que les grands Moghols portaient à toutes les religions et le respect qu'ils avaient de leurs états.
Sans oublier les nombreuses épouses qui vivaient dans leur harem, et en fait très peu d'entre elles étaient musulmanes à l'origine.
Ben oui, il y en a beaucoup qui venaient d'autres pays, qui ont été enlevées, et donc voilà, ben, elles ont gardé leur religion. Alors j'espère que la découverte donc, de ce Taj Mahal, ce site légendaire, vous a plu, et vous a peut-être donné envie d'aller l'admirer de près, au milieu de ce jardin du paradis, ou au moins le regarder sur Internet. La réalisation de ce monument, il y a plus de 350 ans, a demandé plus de 41 millions de roupies de l'époque et quelques 500 kilos d'or. Alors vous y admirerez des dentelles de marbre extraordinairement sculptées, des calligraphies d'une finesse inouïe. Et pour terminer, et après avoir patiemment fait la queue, vous pourriez vous recueillir près des cénotaphes de ces deux amoureux qui, plus de 350 ans après leur disparition, continuent à faire rêver les amoureux romantiques du monde entier.
Merci Elisabeth de nous avoir fait rêver et même enchanter par cette belle histoire qu'un des plus beaux sites légendaires du monde nous offre
aujourd'hui sur Radio Grand Ciel.
À bientôt.
Et dans les mois suivants. Merci de nous avoir écoutés.